Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Le président de la République a lancé hier mercredi 10 août 2023 à Kinshasa la journée des commémorations du génocide congolais Génocide. Un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que peuple de la RDC, a dit Félix Tshisekedi, vous l'entendrez dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a convoqué du 10 au 22 août prochain l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. La CENI précise que les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels tous les 20 jours de 8h30 à 16h30, heure locale. L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri. Dédoné Lossa parle des attentes de la population de cette province du patron de la sécurité intérieure après ses échanges hier mercredi à Bunia avec les forces vives de l'Ituri. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. La date du 10 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que peuple de la République démocratique du Congo. Des propos tenus par le chef de l'État hier mercredi 10 août à l'occasion du lancement de la journée de commémoration du génocide congolais, Génocide en sigle. Le président de la République a pris la parole après plusieurs témoignages émouvants de quelques victimes. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole en ma qualité de garant de la nation pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocide, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts, nos ressources naturelles.
Et pour sa part, l'opposant Martin Fayoulou a écrit sur son compte Twitter, je cite, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale, non-assistance à un peuple en danger. Fin de citation. Et puis, au-delà des plusieurs viols que j'ai connus, j'ai été aussi violé par mon père adoptif, tel est le témoignage émouvant d'une dame victime de violences sexuelles dans la région du Kasaï au cours de cette journée de commémoration du génocide congolais. On l'écoute.
Elle dit que telle qu'elle est là, elle a un défaut. Elle ne peut pas porter des talons. Et lorsqu'elle fait beaucoup de mouvements, elle saigne à tout moment. Elle dit qu'elle est en train de se poser la question pourquoi elle aimait femme. Pourquoi elle avait cette malchance. Parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a commis comme viol, elle a été victime de viol par son père adoptif. Alors elle dit que le fait d'être forte et venir devant vous parler comme ça, c'est grâce au mouvement des survivantes. Quand le mouvement est arrivé, quand Madame Tatiana, elle est arrivée, elle m'a identifiée. Elle m'a renforcée, elle a dit que tu ne peux pas reculer et tu seras là pour parler aussi au nom des autres. Je suis devenue forte et telle que vous me voyez, je commence aussi à sensibiliser d'autres femmes qui sont comme moi. Je ne suis pas venue pour vous faire pleurer, mais je suis venue ici pour réclamer la justice. Je demande au président de la République de nous aider pour que la justice soit faite et les réparations pour d'autres victimes.
Et pendant ce temps, une trentaine de photos montrant des images macabres des corps de victimes de guerre et atrocités commises dans la province du Nord Kivu sont exposées depuis lundi dernier au rond-point BDGL à Goma. C'est dans le cadre de la première commémoration de la journée nationale d'hommage aux victimes du génocide des gains économiques. Une cérémonie d'hommage aux victimes a été organisée par le gouverneur Constant Dima. Le point depuis Goma avec vous Bernard Denyangui.
Après une minute de silence, le gouverneur de province Constant Dima a déposé symboliquement une gerbe de fleurs sur un socle prévu au milieu du rond-point Bédégel par le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et autres crimes graves, Fonarev. C'était en présence des survivants des affres de la guerre vécues au Nord Kivu depuis le 2 août 1998. Occasion pour l'une de ces dernières de lancer un message au gouvernement congolais et ses partenaires, Madame Elibera Taburato.
Il y a nos frères qui sont morts, il y a d'autres qui sont restés handicapés. Et nous réclamons que la justice soit faite et la réparation des victimes. Et que les familles des victimes aussi soient prises en charge. Parce qu'il y a des parents qui ont laissé des enfants qui n'avaient pas encore commencé à étudier. Ils ont droit aux études comme tant d'autres enfants. Et en tant que victime, la première des choses est que la paix revienne chez nous, que la guerre cesse et que nous puissions rentrer chez nous.
Pour les sources du Fonarev, cette exposition photo va durer une semaine, comme pour faire un appel à l'action contre la guerre visant le pillage des ressources naturelles qui vient de durer plus de 25 ans dans l'est de la RDC. Une guerre qui a causé près de 10 millions de morts, d'où la considération du génocide congolais. Jean Constant Sigle, Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Par ailleurs, en Ituri, la MONUSCO fournit depuis des mois la protection physique à plus de 100 000 déplacés de guerre à travers ses quatre bases opérationnelles à Bayo, Fataki, Ro et Jina en territoire de Djougou. La chef de la mission onusienne a livré ces chiffres hier mercredi à Kinshasa lors de la conférence de presse des Nations Unies. Bintou Keïta a également fait savoir qu'au Nord Kivu, le retour de la paix et de la stabilité ne sera possible qu'après une résolution durable du conflit. On écoute Bintou Keïta au micro de Martin Sebou Djangwe.
Je comprends la frustration et le désespoir des communautés qui se sentent impuissantes face à l'occupation illégale de leur territoire par le groupe M23. Mais je souhaite les rassurer que les efforts diplomatiques et politiques ont été intensifiés ces derniers mois, permettant d'aboutir à un cessez-le-feu en l'état actuel. Le travail des diplomates est assez ingrat, car beaucoup d'efforts sont déployés en coulisses et ne sont pas nécessairement connus du grand public. Ces efforts se poursuivent au quotidien pour une résolution durable et définitive de la crise du M23 pour permettre un retour à la paix et à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo.
Autre actualité, avec le processus électoral en cours en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué du 2 au 22 août 2023 l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. La CENI précise que les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels tous ces 20 jours, de 8h30 à 16h30, heure locale. On écoute à cet effet Denis Kadima, président de la CENI, dans cet extrait choisi par Alain Irung.
La cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République ayant plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vibrant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme. Ensuite, réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux.
Restons dans ce chapitre de la convocation de l'électorat hier mercredi pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. La CENI invite les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à mieux constituer leurs dossiers des candidatures conformément aux prescrits de la loi électorale et de les soumettre promptement. Des détails avec vous, Esther Ndalafina.
Pour les élections des députés provinciaux, conformément à l'article 148 de la loi électorale en vigueur, la CENI rappelle que la liste des candidats députés provinciaux est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes indépendantes se présentent individuellement. Le candidat à la députée députation provinciale remplit les conditions ci-après, être âgé de 25 ans révolu à la date de clôture du dépôt des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Le candidat doit également avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou encore justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique. Tandis que le candidat conseiller communal remplit quant à lui les conditions ci-après, être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolu à la date du dépôt de candidature, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Le candidat doit également avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.
Et tout à fait autre chose à présent, dans la province du Bas-Uélé, 7 personnes ont trouvé la mort et 3 autres grièvement blessées suite à un éboulement dans un site minier dénommé Séminaire dans les territoires de Bondo. Le drame s'est produit le 1er août dernier vers 15h30, a déclaré le ministre provincial en charge des mines et porte-parole du gouvernement provincial de cette province. Le professeur Ursule Lelodi Makangu précise que ce bilan est provisoire puisque les recherches se poursuivent pour essayer de retrouver les creuseurs encore enfouis sous la terre. Le point avec Jacques Moukonkoli.
Ce site minier se trouve dans la chefferie de Baye en territoire de Bondo, situé à plus ou moins 300 km au nord de Bouta. D'après des témoignages recueillis, 11 à 12 creuseurs se sont retrouvés dans un puits à la recherche de l'or lorsqu'ils ont été surpris par un éboulement. Au terme d'une première intervention, 7 corps ont été retrouvés et quelques survivants, comme l'affirme le porte-parole du gouvernement provincial du Bas-Uélé, le professeur Ursule Lelodi Makungu.
Jusque-là, on est à des corps retrouvés. Il y a 3 personnes rescapées, des blessés graves et avec une personne vraiment qui est sain et sauf.
Le porte-parole du gouvernement provincial, en même temps ministre en charge des mines, souligne que dans sa réunion d'hier, le conseil des ministres provincial a mis en place une cellule de crise. Celle-ci a recruté 1500 personnes sur place à Baye afin de poursuivre des fouilles en vue de tenter de retrouver d'autres survivants. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
9e jeu de la francophonie, à côté de principaux rendez-vous culturels et sportifs sur les différents sites, des stands d'exposition et de vente de divers produits ont été érigés. De l'habillement aux œuvres d'art en passant par des produits cosmétiques locaux, les visiteurs sont émerveillés et n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Rosalie Zawadi a visité les stands d'exposition à l'Académie des Beaux-Arts et à la place de l'Échangeur. Voici son reportage.
Le beurre, c'est pour des peaux très sèches.
C'est sur un stand d'une entreprise congolaise spécialisée dans les cosmétiques pour peaux sensibles que nous avons rencontré l'ingénieur Lumu Kateba Patrice. Ici, il paye une pommade qu'il garde dans son nouveau sac fait des perles, pris sur un autre stand. Il est fier de se procurer des produits made in Congo.
C'est bon parce que voyez, tout ça se fait ici chez nous. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Quand nous allons en Europe, on achète des histoires parfois qui n'ont même pas une histoire pour nous. Mais quand on voit que nos frères font déjà de très bonnes choses comme ça, ça nous motive, ça nous donne la joie. Moi, je suis très content de voir que tout ça s'est fabriqué sur le Congo. Ça fait plaisir.
À l'espace de l'échangeur, Madame Elisabeth veut garder pour elle et pour ses enfants les souvenirs des jeux de la francophonie à Kinshasa.
On achète le polo, les stylos, souvenirs. Donc on veut aussi rester avec quelque chose de souvenir, les pagnes et les casquettes. C'est pas trop cher. Hein? Ouais. Dans les pagnes, c'est 10 dollars, le polo, c'est à 6 000 francs. Tout le monde doit avoir un souvenir.
Échange des articles, oui, mais c'est surtout un fort sentiment de fierté nationale qui est partagé entre vendeurs et visiteurs sur les sites de ces 9e jeux de la francophonie.
Notez que la conteuse burkinabé Moumoula Anna Samira a remporté mercredi la médaille d'or du concours de contes et conteurs. Pour sa part, le conteur nigérien Maman Hiro Salifu a raflé la médaille d'argent, tandis que le compteur congolais Dan Bossembo s'est retrouvé à la 3e marche du podium avec une médaille de bronze.
Actualité internationale.
Au Soudan, les mouvements armés du Darfour tentent de résister à l'appel de la guerre. Ces mouvements armés ont adopté, presque à l'unanimité dès le début de la guerre, le 15 avril dernier, une position de neutralité refusant de prendre position pour l'une ou l'autre partie de la lutte. Mais les militaires et les paramilitaires qui se livrent à une guerre sans merci essaient de les ramener dans leur camp. Côte d'Ivoire, le doyen de vice-président du PDCI, Philippe Koblil-Boni, va assurer l'intérim. Au lendemain du décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédier, le président de la République a décrété un deuil national de 10 jours. De son côté, le PDCI a une nouvelle fois réuni ses cadres pour évoquer l'avenir du parti et l'organisation des funérailles de son ancien leader.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial de la société civile de l'Itouri. Dieudonné Lossa parle des attentes de la population de l'Itouri, du patron de la sécurité intérieure, après ses échanges hier mercredi à Bounia avec les forces vives de cette province. Les échanges avec le vice-premier ministre Peter Kazadi ont tourné autour des questions de sécurité et de protection des civils dans les zones où les groupes armés sont actifs. Dieudonné Lossa s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Dieudonné Lossa, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur?
Effectivement, nous avons rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et nous avons profité de l'occasion pour lui brosser la situation sécuritaire telle que nous sommes en train de la connaître. Un rappel, c'est depuis 2017 que l'Ituri est retombé dans le cycle des violences. En 2021, le chef de l'État a pris des ordonnances décrétant l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 2 ans depuis que l'état de siège est installé en province de l'Ituri. Et à notre grande surprise, aucun groupe armé n'a été neutralisé jusqu'à ce moment.
Quand même, il faut reconnaître qu'il y a une accalmie qui s'observe dans plusieurs entités du territoire de Djougou.
Si depuis presque 15 juillet jusqu'à nos jours, on a un peu d'accalmie sur l'ensemble des territoires de la province de l'Ituri, c'est à très haute à cause de la bonne foi de ces miliciens, mais aussi des efforts conjugués et des autorités, ainsi que la société civile à travers ces différentes composantes. Nous sommes dit que si chaque fois il y a des bévues, si chaque fois les miliciens peuvent revenir sur leurs actes, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Bien qu'ils manifestent une volonté, mais il n'y a pas un encadrement de tout ce qu'ils ont, ce qu'on pouvait leur apporter par rapport à ce qu'ils ont pris comme engagement. Donc nous invitons l'État congolais à ne pas laisser que cette accalmie que nous avons maintenant nous puisse revenir au cycle de départ. Mais aussi nous disons que cette accalmie n'est pas une garantie de sécurité en Ituri, d'autant plus que tous les miliciens détiennent leurs armes. Ils gardent leurs armes, ils se promènent avec leurs armes, ils contrôlent le territoire. Et avec ça, si l'État ne venait pas avec, par exemple, le PDDRCS d'une manière efficace, il y a un risque qu'on recule. Or, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Nous lui avons également fait part de ce que, avec la baisse des hostilités du cas des miliciens, on constate qu'il y a maintenant les cas des assassinats par les forces loyalistes.
Est-ce que vous avez des cas précis d'assassinats perpétrés par les forces loyalistes?
C'est le cas où un militaire qui a tué 13 personnes dans une famille à Chomia, un autre après une coalition entre les véhicules qui étaient dedans où étaient les militaires et les camions à Mungwalu, on a tiré sur le chauffeur, il est mort hier. La nuit, sous la pluie, un sujet est tué également à Andibé. On est en train de dire que c'était un policier qui l'a tué. Et nous avons également rappelé qu'un déplacé des sites de Plaine Savo, qui est allé au Chat hier, a été aussi décapité par soi-disant Codeco. Donc, vous voyez, tout cela continue à diminuer, n'est-ce pas, la confiance qui devait renaître entre la population et les forces loyalistes, comme les militaires, les forces de sécurité, la police. C'est que si la population n'a pas confiance à son armée, l'armée aura du mal à réussir dans sa mission. Nous avons également fait part à l'autorité de ce phénomène Ouazalendo. Pour l'Ituri, ils ne sont pas les bienvenus. Nous, la population de l'Ituri, nous voulons être sécurisés, pas par n'importe quel autre groupe, mais seulement par les forces loyalistes. Nous avons besoin de l'armée, nous avons besoin de la police pour notre sécurité et pas un autre groupe comme Ouazalène.
Dans votre intervention lors de cette rencontre avec le VPM, vous avez signifié de la présence de militaires dans les sites de Savo et Lala qui inquiéteraient le déplacé. Avez-vous des preuves de ces allégations?
Nous avons échangé avec les échatteurs de déplacés de ces deux sites. Ils nous ont confirmé qu'il y a des militaires à Lala dans les sites et les militaires aussi dans les sites de Plaine Savo. Et comme la population a peur de rester avec les militaires qui ont des armes, de peur que peut-être que les miliciens viendront s'attaquer à corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ces sites, et présence des militaires en armes dans les sites, la population a dit non, et ils ne vont pas rester dans les sites, et ils sortent du site, ils ont abandonné les sites, ils ne dorment pas dans ces sites. C'est à violation de principes internationaux des droits humanitaires.
Didonel Ossa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était le coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa. Était un entretien à Bounia avec Martial Kizabiamungu après des échanges avec le vice-premier ministre Peter Kazadi hier à Bounia. Notez que dans notre édition de 8h, vous suivrez la réaction du gouverneur de l'Ituri, toujours en invité du journal. Fin de cette édition qui a été mise en onde par Polydor Basunga, Alain Irung l'a coordonnée et supervisée. À leur nom, je vous dis merci pour votre fidélité à Radio Okapi.
Merci à vous, Jean-Désiré Kanyama. Je tenais à m'excuser en direct. Je vous ai confondu tout à l'heure avec la personne qui devait présenter Swahili avec Faul Gakambu.
Auprès des auditeurs, alors.
Non, mais en même temps, nous sommes ici ensemble. Non, ça vous arrive aussi de présenter les journaux en Swahili.
Bien sûr,
vous êtes polyvalent.
Vous devez confondre à cause de ça.
Merci Jean-Désiré Kanyama. Merci. À très bientôt pour d'autres nouvelles. Et ça sera à 7h, heure de Kinshasa. Il est 6h21.
Okapi matin.
Kaki Akewa.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Okapi Matin. Retrouvez dans un instant sur votre radio la revue des presses avec Folkin Consom Moussière Africa et les dossiers du jour. Sachez que le journal en Lingala sera couplé d'un invité des dossiers en Lingala. Ce journal est à suivre à 6h30 heure de Kinshasa. Ne manquez pas aussi la chronique sur les marchés que nous appelons affectueusement ici Sangoyaba Wenze. Nous allons clôturer cette partie en beauté avec une chanson thématique et on démarre déjà avec la revue des presses.